Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Un verset, le verset 20, qui est une exhortation. Vous savez, Jésus a dit, « Oh, si tu étais attentif, est-ce que quelqu'un connaît la suite ?» Alors, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur ?« Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots. » Donc nous allons lire un commandement qui s'adresse à chacun de nous. Jude, verset 20. « Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. » Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Le prophète Habacuc l'avait prophétisé il y a longtemps en avance, le juste vivra par sa foi. Alors, est-ce que vous vivez par votre foi ou est-ce que vous vivez avec la foi des autres? J'ai connu une dame, moi, qui a rétrogradé. Vous savez pourquoi? Parce que sa meilleure amie a rétrogradé. Elle l'a suivie. Et quand on lui a posé la question, mais pourquoi vous n'allez plus à l'église? Ah, parce que ma meilleure amie n'y va plus. Vous voyez, quelqu'un qui dépendait des autres. Alors, est-ce que c'est bien de dépendre un peu des autres? Est-ce qu'on a besoin des autres? Ah oui, la Bible dit, veillez les uns sur les autres, aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Mais nous attendons parfois trop des autres. Et ça peut devenir un piège, de dépendre trop de la foi des autres. Ça peut nous causer vraiment du tort. Le juste, il doit vivre par sa foi. Maudit soit le Seigneur pour la foi des autres, parce que nous devons nous encourager, nous édifier les uns les autres. Est-ce que c'est écrit « édifiez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres » Donc on voit bien qu'il faut aussi que nous dépendions les uns des autres, mais dans une certaine mesure. La foi peut s'affaiblir. Alors nous allons lire un texte qui m'est venu sur mon cœur tout à l'heure pendant que j'étais dans mon bureau pour préparer ce culte. C'est cette fameuse affaire d'Abraham. Alors dans Romains au chapitre 4, j'aimerais qu'on le lise ce verset. Parce que quelqu'un a particulièrement besoin de cette prédication, croyez-moi, au milieu de nous cet après-midi. Romains chapitre 4, nous voyons un homme qui n'a pas faibli dans la foi. Ce qui caractérise quand même la fin des temps, c'est que beaucoup abandonneront la foi. C'est écrit ou c'est pas écrit ça? C'est écrit. Parce que le monde, parce que justement l'apostasie, vous savez, c'est l'abandon de la foi. Moi j'ai entendu, je ne sais pas combien de définitions du mot apostasie, mais quand même, la meilleure définition, je crois que c'est l'abandon de la foi. Pas l'abandon des églises. L'abandon de la foi. On peut être dans une église et abandonner la foi. Regardons ce qui nous est dit de la part d'Abraham, Romains chapitre 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, ça vous intéresse, non, de savoir la suite? Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ces trois versets peuvent sortir quelqu'un de la détresse, de la crainte, de la faiblesse. Ces trois versets, si vous les lisez avec votre cœur, je disais ce matin qu'on peut écouter avec les oreilles naturelles, les oreilles physiques, mais il y a des oreilles spirituelles. Et si notre cœur est ouvert, vous allez cet après-midi saisir cette victoire que Dieu veut vous donner. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est quand même notre foi. C'est par la foi qu'on saisit la bénédiction. Que de chrétiens ont une foi en dents de scie. Vous les voyez un jour, oh, ils sont là, ils sont heureux, Dieu les a bénis, Dieu les a exaucés. Alors vous les voyez, ils sont pleins d'admiration. Le lendemain, une épreuve les a touchés, oh, ils sont contrariés. Alors voyez, ils sont là en dents de scie, et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Bien sûr qu'il y a des bénédictions qui nous réjouissent. Bien sûr qu'il y a des épreuves qui ne nous font pas sauter de joie. Mais nous savons que la vie est faite d'épreuves, que la vie est faite de certaines faveurs. Et si notre vie spirituelle dépend de cela, ce n'est pas la foi que Dieu veut. La foi, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. C'est Dieu qui nous a donné la foi. Il vous a donné une mesure de foi. Vous voyez, quand quelqu'un commence à dire « Oui, moi, la foi, je ne sais pas si je l'ai », eh bien, vous méprisez ce que Dieu vous a donné. Qui c'est qui vous a donné la foi? Hein? Il y a une chanson là du monde, hein? Dieu m'a donné la foi. L'autre fois, j'écoutais la chanson. Ça n'a rien à voir quand même avec la parole de Dieu. Hein? Je ne vais pas l'inviter pour présenter la Sainte-Seine, ne vous inquiétez pas. Mais Dieu vous a donné la foi. Vous avez en chacun de vous une mesure de foi. L'utilisez-vous ou ne l'utilisez-vous pas? Vous devez pouvoir répondre à la fin de cette prédication. Abraham, il n'a pas vu sa foi faiblir. On l'a lu au verset 19, il n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas considéré son corps. Il avait près de 100 ans, sa femme avait 90 ans. Et vous savez, un homme de foi, une femme de foi, ne regarde pas aux circonstances. Un homme qui regarde aux circonstances, l'état de votre foyer, votre propre état, l'état de vos enfants, mes enfants, ils ne se convertiront jamais. Mon mari, quel incrédule, quel blasphémateur. Mais si vous commencez à parler comme ça, ce n'est pas la foi. Regardez avec moi dans Jacques, gardez le texte de Romains, dans Jacques au chapitre 1er, c'est très très bien écrit. Il nous est dit de ne pas considérer les circonstances. Et un homme qui considère les circonstances, on va voir ce qui lui arrive. Jacques chapitre 1er, c'est un texte qui nous encourage à considérer les épreuves comme un moyen de faire des progrès dans la foi. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est à partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est sans appel, c'est catégorique. La foi, c'est la confiance, la foi. La foi, ce n'est pas la confiance en soi. La foi, c'est la confiance en Dieu, en ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, je le crois. Ce n'est pas ce que je pense, Dieu ne m'aime pas, je crois que moi, Dieu ne m'aime pas. Est-ce que ça, c'est la foi? Est-ce que Dieu vous aime? Comment vous le savez? Même à vous? Vous croyez que Dieu vous aime à vous, Jérémy? Ouais. La Bible dit que Dieu aime tous les hommes, tous. Voilà. Et la foi, c'est, je le crois, Dieu dit qu'il nous aime, qu'il nous a tellement aimés qu'il est mort sur le bois de la croix, eh bien, je le crois. C'est ça, la foi. Ce que Dieu dit, je l'écoute. Je le crois. Ce qu'il promet, je l'attends. Ce qu'il me demande, je le fais. C'est ça la foi. On pourrait le résumer, voyez, en trois paroles, de cette façon tout à fait simple. Quelqu'un qui regarde les circonstances, il ne recevra rien. Dieu peut le bénir, bien sûr, parce que Dieu est bon. Mais je crois quand même que lorsque nous sommes entrés dans le peuple de Dieu, nous sommes entrés dans le peuple de Dieu pour vivre les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Parce que Dieu fait grâce. Est-ce que Dieu fait grâce qu'aux chrétiens? Est-ce qu'il fait pleuvoir sur les bons ou que sur les bons? Est-ce que c'est écrit quelque part que Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons? Oui, ça veut dire que même les chrétiens, il n'est pas écrit dans la Bible que les anges sont des serviteurs en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. On se moquait de Dieu, les anges nous gardaient quand même, oui ou non? Donc Dieu était bon quand même, vous voyez, même si on n'était pas chrétien. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est saisir. C'est dangereux. Non, je ne regarde pas les circonstances. Mon foyer, quelle catastrophe. Ma maison, quelle catastrophe. Ma santé, mais quelle catastrophe. Les dernières nouvelles que j'ai reçues, oh, quelle catastrophe. Ça, c'est les circonstances. Abraham ne pouvait plus avoir d'enfant. Et il a choisi de ne pas regarder les circonstances. Il était dans une situation impossible. Peut-être que vous êtes dans une situation impossible. Ce texte nous enseigne qu'un homme de foi ne regarde jamais les circonstances. Ce ne sont pas aux circonstances à nous dominer. Si vous le faites, votre foi s'affaiblira. Vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez avoir lu la Bible plusieurs fois, vous pouvez aller à l'église tous les dimanches. Si les circonstances ont plus d'importance que ce que Dieu dit, votre foi faiblira. Qui dit affaiblissement dit relâchement. Qui dit relâchement dit découragement. Et vous savez, quand quelqu'un est découragé, il n'est pas loin de rétrograder. Vous me suivez? Hélas, combien de fois j'ai vérifié des gens qui vivent dans le découragement, qui s'apitoient constamment, ça peut arriver. Mais en fait, il faut se relever. Et il faut prendre courage. Jésus dit, mais prenez courage. Quelqu'un qui vit dans le découragement, c'est souvent quelqu'un qui va rétrograder. C'est terrible à dire, mais c'est souvent le cas. On a vite fait de se laisser piéger. Vous savez, le monde, tout est fait dans le monde pour vous décourager. Tout est fait. Même la façon dont sont présentées les informations, souvent, ça n'a qu'un but. Ça donne le but de décourager. Il y a des gens qui me disent, monsieur Gros, vous avez vu telle émission, je suis. Eh bien, ne regardez pas. Non, mais sérieusement. Non, mais franchement, les gens, ils regardent, oh, j'ai vu tel film d'horreur, je suis angoissé. Et puis, mais regardez-en un autre. Peut-être que ça va partir. Vous savez, comme dans le coup du menhir avec Obélix. Mais franchement. Franchement. Je pense qu'il y a un problème, vraiment. Le monde, le prince du monde, c'est le diable. Et je crois que nous devons nous laisser nourrir de la parole de Dieu. Lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, ce n'était pas une bénédiction. Après 400 ans d'esclavage, ce n'était pas une bénédiction. Tout ce que le Seigneur a fait pour montrer sa puissance, je veux dire, l'ouverture de la mer Rouge, déjà, c'était quelque chose d'étonnant. Les 10 plaies d'Égypte, etc. Mais malgré le fait qu'ils soient sortis d'Égypte, ils ont gardé la mentalité d'esclaves. Et le résultat, c'est qu'ils sont morts dans le désert. Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Mais est-ce qu'ils sont rentrés dans le pays de la promesse? Et non. Parce que malgré le fait qu'ils étaient libres, ils ont gardé une mentalité d'esclaves. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Dieu les a délivrés, Dieu les a lavés, Dieu les a purifiés. Ils ont pris le baptême, ils ont pris position par rapport à la puissance des ténèbres. Et ils gardent une mentalité d'esclaves tout le temps à s'apitoyer comme si Dieu était mort. J'avais lu ce témoignage de Luther qui avait eu une dépression. Pourtant, Luther, c'est le grand réformateur, c'est lui qui a mené le protestantisme dans le monde entier. Et il était parti 8 jours se reposer. Et quand il est revenu, moi ça m'a marqué cette affaire. Quand il est revenu, sa femme était habillée de noir. Mais vous savez, bon, à l'époque, dans certaines religions, le noir c'était vraiment les vêtements que l'on mettait lorsqu'on était dans le deuil. Et il arrive au bout de 8 jours, il n'avait pas vu sa femme, il voit sur le pas de sa porte sa femme en noir. Et il lui dit, mais quelqu'un est mort? Il n'était pas au courant, lui dit. Mais qui c'est qui est mort? Mais quand je vois ta tête, c'est Dieu qui est mort. Et ça a fait un électrochoc. Ça fait, si vous lisez la biographie de Luther, vous verrez ça. Et ça a fait un autre... Il a dit, mais que je suis bête, mais tu es vivant. Et il est sorti de sa dépression. Sa femme, elle est intelligente. Hein, il a compris qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Le Seigneur, il est vivant. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais voyez, on peut être chrétien et garder la mentalité d'un païen, comme les Hébreux lorsqu'ils sont sortis. David, il n'a pas regardé à Goliath. Vous connaissez l'histoire de David et de Goliath? Vous connaissez cette histoire? Qu'est-ce qu'il faisait, Goliath, pendant 40 jours? Est-ce qu'il s'est battu pendant 40 jours? Qu'est-ce qu'il a fait? Il parlait. Le matin, le soir, il leur parlait. Il avançait sur le champ de bataille et il leur disait, voilà, vous êtes des esclaves, vous n'aurez rien, vous n'obtiendrez rien, vous ne pouvez pas gagner, vous êtes les plus faibles, donnez-moi un homme qui se batte avec moi. De toute façon, vous n'êtes même pas chez vous. Il leur parlait comme ça, fait, je résume. Est-ce que les Hébreux, ils étaient chez eux? Ben oui. Mais vous savez, le diable, c'est ça, il essaie de nous faire croire que l'Église, elle a plus sa place sur la terre. Est-ce que l'Église, elle a sa place sur la terre? Un peu. Et vous avez vu combien de fois, non, Seigneur, prends-moi, reprends-moi, j'en ai marre de cette vie. Mais est-ce que les chrétiens doivent parler comme ça? Est-ce qu'on n'a pas notre place sur la terre? Mais un peu. Quand on n'aura plus notre place, vous inquiétez pas, ça changera. Et nous, ça nous changera beaucoup. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, nous avons notre place sur la terre. Alléluia. Et nous devons avoir un comportement qui glorifie le Seigneur et pas un comportement qui font que les païens se moqueraient de nous. Je crois qu'un chrétien, il doit veiller sur son témoignage. On ne peut pas convertir quelqu'un, ça c'est vrai. Jésus n'a pas dit vous êtes des convertisseurs, mais il a dit vous êtes mes témoins. Et je crois qu'on a un témoignage à rendre. Et tant que le Seigneur nous laisse sur la terre, nous avons notre place. L'Église, elle a sa place. Et Goliath, c'est ce qu'il disait. Non, vous êtes des esclaves. Ce n'était pas esclave, c'était le peuple de Dieu. Vous n'y arriverez jamais. David, lui, je pense qu'il n'avait pas. Il n'avait pas marché dans la combinaille. Vous savez ce que ça s'appelle, ça? Du matin et le soir, entendre quelqu'un qui vous décourage, on appelle ça en français le lavage de cerveau. Et l'ennemi, rien qu'avec des mots, il peut vous décourager. Rien qu'avec des paroles, je parlais des infos, mais rien que des paroles peuvent vous détruire. Mais tu ne vois rien. Mais tu ne vois pas que tu ne vois rien. C'est écrit dans la Bible, ça. Est-ce que Dieu a déjà dit à quelqu'un, tu ne vois rien? Non, quelqu'un dit, il y a ça qui ne va pas, mais on va le régler. Voilà comment ça marche. David, lui, il ne voyait pas les choses de la même manière. D'ailleurs, il y a un texte que je cherchais, je l'ai retrouvé pendant qu'on chantait, c'est dans Ésaïe, lorsque Dieu dit, je crois que c'est, vous savez, je n'ai pas cherché, mais je crois que c'est Ésaïe 22, il y a un texte très étonnant qui nous montre bien le problème. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui. Ésaïe 22, verset 11. C'est un verset où Dieu fait un reproche à son peuple, mais c'est un verset qui, bon, il faut bien le comprendre. Mais regardez ce qu'il dit. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit les choses qui se passent. Et regardez derrière ce qu'il y a écrit, Ésaïe 22, verset 11. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien temps. Mais vous, regardez bien, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Nous, on voit les choses. Nous, on voit les circonstances. Nous, on voit les problèmes. Nous, on voit telle personne qui n'est pas convertie de la famille. Nous, on voit les choses. Et Dieu dit dans ce texte, mais vous ne regardez pas vers celui qui a préparé ces choses. Qu'est-ce que Dieu nous demande? De regarder les choses ou de regarder le Dieu qui tient toutes choses dans sa main? Et voilà, c'est ça. Et David, il est arrivé, tout jeune qu'il était, lui, il était dans la volonté de Dieu. Alors il n'a pas dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourtant, on l'a traité d'orgueilleux et tout, mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. Mais David, il connaissait Dieu. Alléluia. Il connaissait Dieu. Et c'est la première démarche que nous devons avoir. Est-ce que vraiment la foi me permet de connaître Dieu? Est-ce que je lis en connaissant Dieu? Quand je lis la Bible, est-ce que ça me permet de connaître Dieu? Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Quand vous lisez ça, ça ne vous rassure pas? Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est écrit? Voilà. Et David, lui, il lisait la loi de Dieu, il avait certainement les premiers livres de la Bible, il lisait ses livres et il connaissait Dieu. Et pour être dans cette victoire, il faut rechercher la volonté de Dieu et s'y conformer. Quand Dieu dit, apitoyez-vous sur vous-même. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Rendez grâce en toutes choses. Connaître la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui font pitié. Bien sûr qu'on a droit à 5 minutes de cafard. Bien sûr qu'on a droit à quelques instants de découragement. Mais je crois qu'un chrétien dit, mais non. Mais Dieu est mon Père. Il tient ma vie. Oui ou non? Il est là, il est mon Seigneur. Comme Jésus a dit un jour à Marthe, mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est ça, c'est connaître la volonté de Dieu et s'y conformer. Et David connaissait la volonté de Dieu. Et dans la Bible, les hommes de foi, ils sont là pour nous enseigner ces choses. Noé, est-ce que c'était un constructeur de bateaux, Noé? Est-ce que Noé tenait un port? Est-ce que... Non? C'était pas un bâtisseur, un constructeur de bateaux? Bon, il n'avait jamais construit de bateau. Ils ont été combien le construire, normalement? Combien? Il avait combien de fils? Trois fils, dont ils étaient quatre. Peut-être que les femmes étaient vaillantes à l'époque, non? Est-ce que les femmes l'ont aidé? C'est rien. Bon, ils n'étaient pas nombreux à le construire, d'accord? Ils n'avaient jamais vu d'eau, n'oubliez pas. C'était dans la montagne. Et s'il avait écouté les critiques et la moquerie, est-ce qu'on s'est moqué de Noé? Il aurait pu dire, attendez les fils, on arrête. On a mis quelques planches là, mais on arrête parce que franchement, depuis 3 semaines, les voisins ils font que se moquer de nous. Vous ne croyez pas que c'était dur quand même, hein? Ils étaient seuls. Il était seul, Noé. Tout seul. Nous, quand on va à la réunion de prière, on est nombreux. Quand on va au culte, on est plusieurs. Si on a un petit moment de cafard, on peut appeler une sœur, un frère, et t'aimes prie pour moi. Noé, quand il allait à la prière, il était tout seul. Et voyez, Dieu lui avait parlé. Dieu l'avait averti, mais nous aussi, Dieu nous avertit. Et on sait ce qui va arriver. Et on sait ce qui nous attend. Et on sait que le Seigneur nous gardera. Est-ce que Dieu a dit qu'il nous garderait? Ben oui. Les hommes de foi, ils ne considèrent pas les circonstances. Il n'a pas considéré les circonstances et comment Dieu a béni cet homme. Josué, quand il est arrivé dans la plaine du Jourdain, Jéricho, la grande ville fortifiée, les géants, les murailles, est-ce qu'il a considéré les circonstances? Non. Dieu lui a dit, tu vas faire le tour 13 fois. Les 6 premiers jours, une fois. Et le septième jour, cette fois, donc c'est 13. Et voilà, c'était vraiment, c'était tout sauf stratégique. Vous rendez compte aujourd'hui s'il y avait un général de l'armée qui dit « Bon, on va aller se battre, on va faire le tour d'une ville. » On l'envoie de suite à l'hôpital psychiatrique. Et non, il a obéi. Il n'a pas regardé les murailles, les géants. Non, Dieu a dit « Tu tournes autour et je te bénirai. » Mes frères et sœurs, quand on prie, Dieu va nous donner la victoire. On ne l'a pas le premier jour, on l'a pas le deuxième mois, on ne l'a pas peut-être la troisième année, mais on l'aura à force. Parce que Dieu a promis qu'il exaucerait nos prières. Josué n'a pas considéré les circonstances. Gédéon. Ils sont partis contre une armée de 100 000 hommes armés jusqu'aux dents. Ils sont partis à 300. 300. Et avec comme arme de pointe, des trompettes, des cruches et des flambeaux. Pour se battre contre 100 000 hommes armés. 300 gars. Il y a de quoi dire. C'est toi, qu'est-ce que t'as, toi, comme âme? Ah, une trompette, hein, c'est bien. C'est... Frère, franchement, Gédéon, Dieu lui avait parlé, il n'a pas regardé aux circonstances. Et je m'adresse à ceux qui ont reçu nos promesses de Dieu. Dieu vous a fait une promesse? Dieu l'exaucera. C'est pas compliqué. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si vous a fait une promesse, elle s'accomplira. Et Gédéon, on m'a parlé de Josué, on a parlé de Noé, on a parlé de David. David ne regardait pas Goliath. Tout Israël regardait Goliath. Mais David, il regardait Dieu. Et je vous pose la question, qui est-ce que vous regardez en ce moment? Vous regardez le problème, les choses, ou vous regardez le Dieu qui a pouvoir sur toute chose? Sur toute chose. Dans n'importe quel domaine, Dieu peut intervenir. C'est pour ça, ne regardez pas les circonstances. Ne soyez pas accablés, ça peut arriver. Mais ressaisissez-vous comme David qui dit, non, mon âme ne t'accable pas. Ne t'abat pas mon âme au-dedans de moi, je te louerai encore. Si David avait considéré les choses, je pense qu'il serait parti en courant. Il a couru, oui, mais vers David, vers Goliath. Et Goliath doit s'en souvenir encore. Hein. Si vous pensez aux circonstances, vous n'avez pas la foi. Vous avez la croyance, vous aimez le Seigneur, ça n'a rien à voir et ça ne remet pas en question certaines choses. Mais la foi, c'est croire que ce que Dieu a dit, il le fera. Abraham n'a pas douté, c'est comme ça. Il a dit, Dieu lui avait fait une promesse, un soir, il avait 75 ans, bon, déjà c'était pour avoir un enfant, ça a commencé. Dieu lui dit, sors de ta tente et regarde le ciel. Il est sorti de sa tente, il a regardé le ciel, qu'est-ce qu'il a vu? Bien sûr, des milliers d'étoiles, des milliers. Et il dit, tu vois, autant tu vois d'étoiles, autant sera grande ta postérité. Il aurait pu dire, bon, c'est bon, merci, j'ai compris. Pendant, et là, vous, quel âge il avait là, dans le Romain 4? Comment il avait? 100 ans. Donc ça veut dire que pendant 25 ans, il a attendu. 25 ans. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Son corps, on le comprend. Le corps de Sarah, encore plus, qui avait certainement eu la ménopause depuis un moment. Oui, mais c'est vrai. Quand le texte en grec, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Mais est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un comme il veut? Ne considérez pas les circonstances. Et souvent le problème, il est là. Dieu nous a fait une promesse, les années passent, mais nous commençons à défaillir. Oh, c'est pas possible. Ça viendra pas. Ne regardez pas les circonstances. On l'a lu, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Oui, les années passent, mais Dieu reste fidèle. Dieu avait dit à Abraham, tu auras un fils. Est-ce que vous voyez Dieu en train de dire, ah bon, je t'ai dit ça? C'est sûr? T'es sûr? Vous savez, nous, on fait des promesses des fois. C'est pas vrai que nous, des fois, t'es sûr que je t'ai dit ça? Ben oui, tu m'as dit. On dit des choses, on ne se rappelle pas, on les oublie. Mais Dieu, quand il fait une promesse, il ne revient pas. Il ne va pas dire, ah bon, j'ai dit ça, moi. Si Dieu vous a fait une promesse, elle s'accomplira. Dieu a promis certaines choses pour l'Église à la fin des temps. Dieu a promis la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous attendez la pluie de l'arrière-saison? Est-ce que vous croyez que Dieu peut envoyer la pluie dans votre vie, dans votre maison, dans l'église? Est-ce que le fleuve de Dieu peut couler encore dans l'église? Ah bon, mais ça tout va mal, les ténèbres s'épaississent, vous avez vu ce qui se passe ici et là, et dans tel pays, et les soulèvements, et les tremblements de terre, et l'angoisse, et la violence, et la haine. Mais est-ce que c'est écrit ça? Ben oui. Quand, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés, que votre cœur ne se trouble pas, il faut que ces choses arrivent. Je ne sais pas si c'est même la peine de prier pour qu'elles n'arrivent pas. Des fois, on entend des cris, Seigneur, tu vois, qu'est pas ça, tu vois, qu'il y ait la paix en Israël. Je veux dire, quand vous lisez la Bible, quand vous allez voir que Israël va devenir une pierre pesante pour toutes les nations, ça c'est une prophétie. Cette prière ne sera pas exaucée. Vous pouvez dire, Seigneur, garde tes enfants en Israël. Garde ton peuple. Les chrétiens, il y en a. Des juifs messianiques, il y en a. Seigneur, garde ton église. Garde ton peuple. Mais parfois, on entend des prières. Moi, je suis désolé, je ne peux pas dire amen, puisque c'est exactement le contraire de ce que Dieu va faire. Que votre cœur ne se trouble pas. Dieu nous a prévenus. Il aurait pu ne pas nous prévenir. On n'aurait pas les prophéties. On n'aurait pas les promesses. On serait affolés. Je comprends. Bien sûr qu'on a de la peine, bien sûr qu'on a du chagrin, mais je crois que tout ça, on le pose au pied du Seigneur et on avance, les yeux fixés sur le Seigneur. On ne regarde pas les choses, on regarde le Dieu qui a voulu ces choses. Et croyez-moi, Dieu ne se trompera pas. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 25 ans? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Noé, il a montré sa foi, comment? En construisant l'arche. Gédéon, en rassemblant ses chars, en sonnant de la trompette. Hein? Josué, en tournant autour de Jéricho. David, en ramassant Saint-Pierre dans le torrent et en prenant sa fronde. Mais Abraham, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Je vais... Donnez-moi une forteresse, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? On le relit? Vous voulez vivre dans la victoire? Non? Bon, on va conclure. Est-ce que quelqu'un veut vivre dans la victoire? Eh bien, regardez ce qu'il a fait. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Attention, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 4, verset 19. Sans faiblir dans la foi, donc, on résume ce que j'ai prêché, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, donc c'est un choix, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais, regardez bien la solution, je m'adresse à ceux qui veulent avoir la victoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fut fortifié par la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Il n'allait pas chercher du bois pour construire un bateau. Il fallait qu'il démontre sa foi en glorifiant Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voulez donner gloire à Dieu? Seigneur, tu vois, ça fait longtemps que ça traîne. Mais cet après-midi, je choisis de te faire confiance. Je te rends gloire. Mes enfants, ils ne sont pas encore convertis. Seigneur, tu as le pouvoir de les convaincre de péché. Tu t'en occupes. Est-ce que vous pouvez les convertir, vous? Ben non, c'est pour ça. Faites confiance à Dieu. La foi, c'est pas s'apitoyer. Il n'est pas dit heureux ceux qui s'apitoient. Il est dit heureux ceux qui pleurent. Et on pleure, on a un péché, on a un chagrin, on pleure devant Dieu, on le dépose au pied du Seigneur. Ça fait du bien des fois de pleurer. Mais après, on dit, on se relève et on se ressaisit et on glorifie le Seigneur. Abraham, il a été fortifié en donnant gloire à Dieu. Alors, je termine. Parfois, Dieu ne répond pas. Oui ou non? Oui. Il y a trois raisons. La première, ça peut être dû au péché. Il faut quand même en tenir compte. Ça peut être dû au péché. La Bible dit que le péché fait obstacle à la prière. Et il faut que dans un moment de recueillement, le Seigneur nous montre, peut-être, tout d'un coup, imaginons, je lis la Bible, oh, si t'as quelque chose contre ton frère, va, oula, la Bible dit que l'amertume, ça fait obstacle à la prière. Alors, il faut la déposer au pied du Seigneur. Que rien ne vienne faire obstacle à la prière. On est tous passés par là, un problème, une dette, peut-être une dette. Vous savez, il y a des textes dans la Bible qui... Une dette, il y a des textes qui en parlent. C'est un péché, je pratique un péché. Les autres en font autant, alors ouais, pourquoi pas moi? Les autres, ils regardent des saletés sur Internet, eh bien, pourquoi pas moi? Attendez-vous quand même à ce que Dieu tarde longtemps pour vous exaucer. Donc, La première raison, ça peut être le péché. Deuxièmement, Dieu éprouve notre foi. Dieu peut éprouver notre foi. Vous rappelez, Élie sur le mont Carmel, il prie une fois et le feu du ciel descend sur l'autel. De suite. Le soir de ce jour, il va prier pour que la pluie, cette fois-ci, tombe. Il prie une fois, il envoie son serviteur, il dit, va là-bas sur le tertre, regarde, regarde si la pluie arrive. Le serviteur, il n'y a rien. Ah bon. Et il se remet à prier une deuxième fois, il envoie son serviteur, il dit, va voir si la pluie arrive. Le serviteur, écoute, il n'y a rien. Il n'y a rien, t'as qu'à prier mieux. Hein, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. À la septième fois, il revient. Alors, attends, il y a un petit nuage là-bas, au-dessus de la mer, gros comme la paume de la main. Ah ben c'est bon. Dieu qui éprouve notre foi. Est-ce que vous acceptez que Dieu éprouve votre foi? Est-ce que vous acceptez que Dieu éprouve votre foi? Il faut répondre, parce que ce n'est pas moi, mais Dieu. C'est vrai, Seigneur. Mais ça, c'est la preuve que même si on est dans la volonté de Dieu, il faut persévérer. Et ne pas se relâcher, même si on est un homme de Dieu, même si on a eu des promesses, Dieu a dit qu'il pleuverait, il pleuvra. Et troisièmement, Satan essaie d'arrêter notre prière. Vous vous rappelez Daniel quand il a prié? Vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé? Pendant 21 jours, il y a un ange mauvais au-dessus de la Perse qui a empêché l'ange Gabriel de venir révéler le plan de Dieu à ce prophète de Dieu. 21 jours. C'est expliqué, vous pouvez le vérifier dans le prophète Daniel. Oui, l'ennemi essaie de nous décourager, d'empêcher que Dieu agisse. Et ne vous laissez pas arrêter. Abraham, je vous dis, pendant 25 ans. 25 ans, bien sûr, il y a eu quelques perles entre-temps. Mais il n'empêche que pendant 25 ans, la Bible nous dit qu'il a glorifié Dieu. Et dans l'épreuve que vous êtes, que vous traversez, ce n'est pas compliqué. Est-ce qu'il nous est demandé d'imiter la foi d'Abraham? Où c'est écrit ça? Vous devez savoir où. Où c'est écrit? Dans Hébreux au chapitre 6, il nous est dit d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Vous voyez? Alors que s'il y a un péché, eh bien je m'en occupe. Si Dieu éprouve ma foi, eh bien je persévère. Si l'ennemi empêche Dieu de me bénir, eh bien peut-être je jeûne. Je ne sais pas, je fais ce que le Seigneur me met à cœur. Mais mes frères et sœurs, je retermine avec quoi j'ai commencé. Édifiez-vous vous-même. Vous allez me dire, mais c'est à vous, monsieur Gault, de nous édifier. C'est vrai. Mais à quoi ça sert d'écouter une prédication sur la façon d'être édifié dans la foi si je ne fais pas quand même ce que Dieu me demande? C'est exactement comme si vous entrez dans un restaurant et que vous disiez, voilà, donnez-moi un steak frites, donnez-moi ça, donnez-moi ceci, et que quand on vous le présente, vous ne le preniez pas. Est-ce que vous allez prendre cette exhortation? Est-ce que vous allez avec sérieux dire, eh bien j'ai compris, cet après-midi, j'arrête de m'apitoyer, j'arrête de me plaindre, j'arrête de râler, je vais m'édifier sur ma très sainte foi. Cette année sera une année de victoire. Oh, il y aura bien sûr des hauts et des bas, ça, bon, mais ça c'est pas grave. On a tous, à chaque jour, suffit sa peine. Mais Seigneur, je vais te glorifier. Je vais te glorifier pour mes enfants, pour ma famille. Je vais glorifier le nom du Seigneur. Il fut fortifié par la foi, donc s'il est responsable de cette bénédiction, il n'est pas dit il fut fortifié par la grâce. Il fut fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord pour qu'on se mette au travail? Et que ce verset, peut-être, on le médite pendant plusieurs jours pour qu'il soit bien gravé. Parce que vous savez, on peut écrire à la craie, hein, sur un tableau, et puis on peut graver avec un burin sur la pierre. Et la Bible dit qu'il gravera, dans notre cœur les promesses. Ça vaut la peine de graver un verset comme celui-ci dans notre cœur. On ferme les yeux et on demande au Seigneur cette grâce de rebondir, de la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Je m'adresse vraiment. Je vais prier pour ceux qui sont en train de perdre la foi, d'abandonner la foi, de travestir cette foi à une croyance sentimentale. Vous qui vous plaignez, vous qui râlez tout le temps peut-être, et pourtant vous aimez Dieu, prenez la décision de lui donner gloire. Prenez la décision, dès que vous sortez de ce lieu de culte, de dire « Seigneur, je te glorifie ». Demain matin, quand vous vous lèverez, que ce soient les premières paroles qui sortent de votre cœur. Je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie et vous verrez, vous allez être fortifiés. Et demain, vous serez plus forte qu'aujourd'hui. Et dans 3 semaines, vous serez plus forte que demain. Ce n'est pas un mensonge. Abraham a persévéré malgré les attaques de l'ennemi, malgré la façon dont Dieu l'a éprouvé, malgré les obstacles qu'il y a eu dans sa vie. Il a obtenu gain de cause.